Vous écoutez Quoi de Meuf, le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture. C'est une discussion à deux, chaque semaine, accompagnée de l'une de mes acolytes. On parle aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna. Je suis Clémentine Gallo.
Je suis Rachel Garaval-Carcel.
C'est parti!
Bienvenue dans cet épisode court consacré à un objet culturel, ou plutôt hey, car cette semaine, on met le cap sur le Danemark pour célébrer en fanfare le retour de la série politique Borgen avec une saison 4 diffusée sur Netflix. Alors ça fait 10 ans qu'on attendait ça. On va se demander s'il fallait réellement sortir cette série de son tombeau et si Birgit Nyborg doit peut-être prendre sa retraite.
Il semblerait que la tourmente dans laquelle se trouve Birgit Nyborg est loin de s'apaiser.
Certains commencent à s'impatienter chez les nouveaux démocrates.
Nyborg est clairement sur la touche.
Diriez-vous que la Birgit Nyborg d'aujourd'hui n'est plus la même personne que la première ministre que nous avons connue il y a 12 ans?
Votre interview croisée avec la première ministre est sortie. Chouette photo. Les deux femmes de pouvoir se partagent le monde.
Nous attendons également notre directrice de l'information, Catherine Fonsmark, qui nous rejoindra dans un instant.
Je suppose que tu interviens en tant que spécialiste de Nyborg.
Du pétrole au Groenland? Ce serait un désastre pour l'environnement.
J'ai fait campagne sur la défense de l'environnement et je ne renierai pas mes engagements.
Je ne peux pas laisser une de mes ministres faire cavalier seule et imposer sa vision personnelle de l'écologie. Tu n'es plus la première ministre, Birgit.
Et on est d'accord que si jamais je me mets à péter les plombs, genre...
Vous m'interrompez.
C'est noté.
Merci.
Mais d'abord, merci à Cosette, notre partenaire média, de soutenir Quoi de Meuf. Le magazine féminin, reconnu comme magazine d'information politique et générale, s'intéresse ce mois-ci à la reine d'Angleterre, car elle fête son jubilé. Alors, c'est quoi Borgen? D'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être, Rachel, tu peux nous expliquer, puisque tu es notre spécialiste homologué de la série.
Alors, je ne parle pas le danois, mais Borgen, ça veut dire le château. C'est le surnom de Christian Borg, le siège du Parlement, mais aussi d'une partie des bureaux du gouvernement à Copenhague. La série produite par la télé publique danoise a été diffusée entre 2010 et 2013 pour 3 saisons, et chez nous sur Arte. On y suivait l'accession au pouvoir de Birgit Nyborg, chef d'un parti centriste, et les affres du poste de première ministre. Dans la série, elle est la première danoise à occuper ce poste, seulement quelques mois avant que cela se produise dans la réalité avec Helle Thorning-Schmidt, une social-démocrate. La série s'est aussi, dès ses origines, beaucoup penchée sur le rapport avec les médias et les jeux de pouvoir dans les médias eux-mêmes. La vie personnelle de Birgit Nyborg est aussi très présente. Dans la 3e saison, arrivée un poil plus tard, on suivait une tentative de comeback de Nyborg avec un nouveau parti, les Nouveaux Démocrates.
J'irai droit au but. J'aimerais revenir au parti. Jacob Kruse me le refusant, la seule solution pour moi est de le défier et de briguer son poste de président. Et... tu sais ce que je représente et je sais aussi que nous sommes d'accord sur plusieurs points sur lesquels toi et Jacob vous opposez.
Quelle nouvelle fantastique, Birgit.
Donc j'ai eu une bonne idée.
Birgit, c'est la bonne nouvelle du jour. Si quelqu'un peut nous sortir de ce marasme, c'est bien toi. Nous sommes plusieurs à penser que le parti est en train de sombrer dans l'apathie. Après 3 années au gouvernement, 3 très bonnes années.
Ravi de l'entendre et d'être soutenu par toi.
Alors pourquoi est-ce qu'on a tant adoré cette série à l'époque ?
Oui, c'est vrai qu'on l'a beaucoup aimé dès le début et je pense que outre cette success story que tu viens de décrire qui est très attachante, on a à mon avis une certaine tendance peut-être à romantiser les situations qui ont lieu à l'étranger, hein, donc avec cette idée que l'herbe serait sans doute plus verte ailleurs et peut-être aussi en politique. Donc évidemment, on a été tout de suite très séduite par l'idée de cette femme première ministre, entourée d'un gouvernement très inclusif, avec donc des femmes et des personnes issues des minorités sexuelles ou racisées. C'était un peu une hérésie chez nous à l'époque. C'est vrai que le visionnage peut être un peu intimidant quand on ne connaît rien à l'échiquier politique danois. Pourtant, tout est très clair dans la série. On voit que c'est un microcosme assez incestueux. Finalement, ce fonctionnement n'est pas si éloigné de la France par rapport peut-être aux États-Unis si on compare. Il y a aussi pas mal de collusions, de mélange des genres et des problématiques qu'on retrouve finalement dans de nombreuses démocraties occidentales avec par exemple la réforme de l'assurance santé pour ne citer qu'elle. Et par ailleurs, tu l'as dit, la série mettait aussi en scène les triangulations avec la presse, notamment en suivant la carrière d'une jeune journaliste aux dents longues, Catherine Fonsmark, et du spin-doctor de Birgit Nyborg, le charismatique Casper Juhl. Après, on peut quand même peut-être émettre des réserves, c'était parfois un peu bisounours ou un peu caricatural. Je me souviens notamment du chef de file du parti d'extrême droite qui ressemblait à un cochon.
C'est très drôle parce que c'est très vrai. Bon, mais c'est vrai que le personnage de Birgit Neubauer est très positif. Elle mène une politique plutôt de gauche, elle a des idéaux, elle est restée simple, elle se démène avec ce que c'est d'être une première ministre et avoir une vie de famille, une vie amoureuse. Moi, j'adorais particulièrement le couple qu'elle formait avec son mari. Ça donnait presque, j'ai dit presque, envie d'être hétéro.
Oui, c'est vrai qu'à l'heure du tous pourri, enfin du tous pourri IES, c'était un peu une forme de promo pour la politique. Alors dis-nous, qui joue dans la série ?
Alors le personnage principal est joué par Citze Babette Knudsen. C'est une merveilleuse actrice francophone et francophile. Elle a joué en France aussi, notamment Irène Frachon dans La fille de Brest. Elle a même reçu un César pour ça. Citze Babette Knudsen s'est formée en France à l'école du mime de Jacques Lecoq. Elle a débuté au théâtre et c'est la réalisatrice Suzanne Beer qui a lancé sa carrière. C'est un peu la seule réalisatrice danoise connue à l'international. Et c'est devenue une star, donc, grâce à Borgen.
Vous avez eu peur aussi quand Emmanuel vous a proposé le film ?
Peur, oui.
Par l'ampleur, justement, du sujet, par l'ampleur du personnage d'Irène Frachon ?
Non, plutôt par l'idée de jouer une Française que tout le monde... J'avais l'impression que tous les Français avaient cette image de cette dame en tête.
Ouais.
C'est quand même une sacrée responsabilité de jouer quelqu'un qui est vivant. Moi, je l'ai rencontré très rapidement après avoir été proposé le projet. Et c'est une femme aussi très généreuse et j'avais vraiment l'impression qu'elle m'a donné le droit d'en faire ce que je voulais. L'idée qu'on prend son histoire, qu'il y a un peu plus de lumière sur ce sujet,
bien sûr.
À partir de là, tout va bien.
Oui, c'est vrai que la France a un rapport particulier à cette actrice. Et il faut rappeler également que la série a été créée par Adam Price, qui est aujourd'hui en gros l'un des scénaristes danois les plus connus depuis Borgen. Il est aussi apparemment connu localement pour une émission culinaire qu'il animerait avec son frère. En tout cas, je ne l'ai pas vu.
Surprenant.
On lui doit aussi la série Au nom du père. Ensuite, Netflix lui a proposé de parler de mythologie pour ados avec Rania Rock.
Je n'ai fait que révéler ce qui était déjà en toi. Je t'ai ouvert les yeux.
D'abord, j'aimerais qu'on souhaite la bienvenue à deux nouveaux élèves. Magne et Loris, son frère. Je vous laisse vous présenter à vos camarades.
J'ai un peu d'avance, j'ai sauté des classes et... Magne, lui, il est doué pour plein d'autres choses.
C'est comme si tout avait changé depuis mon arrivée à Eda. Est-ce que je suis devenu invincible ?
On peut dire que c'est ici que s'est produit le dernier combat entre les dieux et les géants.
Donc c'est pas très étonnant qu'ils reviennent cette fois-ci encore chez le diffuseur. Il faut rappeler qu'à l'époque, au début de Borgen, la presse de droite l'avait accusé d'être de gauche et la presse de gauche d'être de droite. Voilà, donc on ne savait pas très bien où se situait la série. En tout cas, il avait contribué à mettre en lumière le rôle parfois un peu occulte des spin doctors en politique. Donc les spin doctors, c'est les conseillers en com des hommes et des femmes politiques. Il s'est un peu vanté en disant que la série avait réussi à intéresser les Danois et les Danoises à la politique. À mon sens, c'est des propos qui sont assez difficilement vérifiables.
Bah, c'est-à-dire qu'au Danemark, le taux d'abstention est très 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 en dessous de ce qu'on connaît en France. Donc je ne suis pas sûr qu'il y ait un défaut d'intérêt pour la politique là-bas.
Et de manière générale, je pense qu'il faut aussi peut-être sortir un peu des débats sur la responsabilité des œuvres d'art. Donc voilà, savoir si les gens se sont intéressés à la politique ou s'ils en ont été dégoûtés à cause d'un film ou d'une série, je ne sais pas à quel point c'est intéressant. C'est sûrement pas le seul facteur qui y contribue.
Peut-être pas.
Mais c'est vrai qu'il est particulièrement difficile pour cette série de s'émanciper de la réalité, vu ses liens avec l'actualité. Mais en tout cas, pour revenir à Adam Price, c'est quelqu'un qui a été évidemment biberonné et qui a grandi avec les grandes séries politiques qui parlent d'hubris et d'ambition, comme À la Maison Blanche. Ensuite viendront House of Cards et chez nous, on peut citer Baron Noir ou encore Les Hommes de l'Ombre.
Qu'est-ce qu'on sait de plus sur le meurtre du président ?
Rien.
Bon, la thèse officielle, un individu manipulé par les réseaux Al-Qaïda ou autre. Je vous présente Ludovic Demeuse, qui organisera toute la communication de la campagne électorale.
C'est officiel, vous vous présentez ?
Pierre n'a pas été abattu par un membre d'Al-Qaïda. Deleuvre le sait, je suis formel.
Vous pourriez choisir quelqu'un d'autre que moi.
Vous êtes la seule à pouvoir battre Deleuvre. La campagne va être très courte.
qui sont, pour résumer, des fictions qui ont une vision à la fois assez cynique de la politique, mais qui contribuent aussi à humaniser, pour certaines, la politique. Et Borgen, qu'est-ce que ça nous dit exactement du système politique danois? Est-ce que c'est très différent ou est-ce que c'est comme chez nous?
Bon, alors c'est quand même plutôt très différent. C'est un régime parlementaire avec des élections à la proportionnelle. Donc peu de chances d'avoir un parti qui dirige tout seul. C'est un jeu de coalition, plutôt de droite ou plutôt de gauche. Le Parlement est fort et on ne compte plus les moments où Nubor manque de se faire renverser pour telle ou telle raison. C'est d'ailleurs peut-être un poil exagéré, les gouvernements sont plus stables que ça au Danemark. Mais c'est sans doute le jeu dans une série politique. On exagère l'instabilité et les retournements de situation pour avoir quelque chose à raconter. Et forcément, c'est plus difficile d'avoir des choses à raconter en France avec un système un peu plus verrouillé, difficile du coup de faire une bonne série politique dans ces conditions. Tu l'as dit, Baron Noir fait exception, mais voilà, au Danemark, tout est discussion, tout est interstice, c'est un petit peu moins le cas en France. Et puis on l'a dit un peu plus tôt, Birgit Nyborg a été élue première ministre quelques temps avant seulement que cela se produise dans la réalité là-bas. Pourtant, contrairement à ce qu'on entend souvent, ce n'est pas la première ministre, Helle Thorning-Schmidt, qui est le modèle de la série. C'est Margaret Vestager, à l'époque chef d'un petit parti de centre, centre-gauche. Ce nom vous dit peut-être quelque chose, car aujourd'hui, c'est l'une des commissaires européennes les plus influentes. On écoute l'actrice en parler.
La série se fait parallèle à un changement. Donc, d'un part, Helle Thorning-Schmidt était bien en place et très proche d'être notre première ministre quand on a commencé à tourner, et il y avait aussi un changement dans la société vis-à-vis l'intérêt pour les politiques. Je crois aussi que, bien sûr, que Borgen, de voir cette humanité des politiciens, plus de montrer des côtés humains, rendre les politiciens plus accessibles.
Oui, alors il faut aussi dire que Borgen fait quand même un peu partie du soft power danois et a contribué au rayonnement culturel du pays. Évidemment, il y a beaucoup d'autres séries danoises de qualité comme Bron, The Killing, qui sont des produits qui s'exportent très bien. Donc tout ça contribue en partie à rénover l'image progressiste du pays, qui, on le rappelle, est quand même considéré comme étant très conservateur pour le reste de la Scandinavie.
Très anti-immigration, surtout ouais. Beaucoup.
On écoute l'actrice en parler.
Tourner Borgen, c'était donc après les grands succès de The Killing, ça s'appelle comme ça ici. Une série de crimes super populaires au Danemark. Donc bien sûr, l'intention était de créer encore un succès, mais le sujet, la politique, était beaucoup plus risqué. Donc je crois qu'on comptait sur, si on avait un million de spectateurs, ça serait vraiment bien. Et heureusement, ça a eu autant de succès que The Killing. Et comme aussi, on suivait juste derrière The Killing à l'étranger aussi, en Angleterre, je crois, en première. Il était super bien reçu en Angleterre. Et puis, je crois que c'est vendu maintenant à une soixantaine de pays autour du monde. C'est assez fou.
Alors, qu'est-ce que cette série nous apprend sur les femmes politiques? Est-ce qu'elle nous apprend des choses? Déjà, elle vient confirmer certains faits ou certaines intuitions, qu'il y a des pays où la pilule passe mieux en matière d'élection de femmes politiques, qu'elles sont parfois plus attentives à certaines problématiques, là, c'est pas vraiment une surprise, qu'elles sont victimes de sexisme à tous les étages, qu'on met toujours en doute leurs capacités, ça aussi, on le savait, et la série le vérifie. Ce qui est intéressant, et ce que l'on peut peut-être aussi reprocher à cette série, et c'est toute son ambition, c'est que lorsqu'il s'agit d'une femme en politique, on parle davantage de sa vie personnelle et on voit dans la fiction que la presse s'y intéresse aussi davantage, c'est-à-dire qu'une femme publique est toujours renvoyée à la sphère domestique. Et donc la série montre bien le coup du pouvoir sur le couple qui finissait par se séparer, sur les enfants et la culpabilité que ça pouvait provoquer. Voilà. Donc, Borgen, les trois premières saisons s'appelaient Une femme au pouvoir. La quatrième saison s'appelle désormais Le pouvoir et la gloire. S'il y avait un mot, peut-être, pour résumer cette saison 4, est-ce que ce serait mortifère, anxiogène, purgatoire?
Moi, je dirais sombre, bien plus en tout cas que les premières saisons qui suivaient l'arrivée au pouvoir par surprise, un peu d'un parti pas habitué d'être à la tête du gouvernement, avec Birgit Nyborg, issue d'une nouvelle génération relativement jeune qui promettait de rénover la politique. Régulièrement, elle se cassait un peu les dents sur ses idéaux face aux principes de réalité. On suit désormais une femme politique plus accomplie, plus cynique aussi, et qui est un peu dépassée, et qui lutte pour rester dans le game à coups de selfies sur Instagram. Elle est désormais la ministre des Affaires étrangères d'un tout jeune gouvernement de gauche. Au-dessus d'elle, on trouve une première ministre plus jeune qui s'est inspirée d'elle tout en rêvant de l'évincer. Je crois noter d'ailleurs quelques ressemblances, au moins physiques, avec l'actuelle première ministre social-démocrate, Mette Frederiksen. La coiffure en arrière, notamment, je sais pas si c'est voulu. Birgit Nyborg fait face à un sacré sac de nœuds. La découverte d'un gisement de pétrole au Groenland va rebattre les cartes de la politique internationale et placer le gouvernement danois face à plusieurs dilemmes qu'on ne vous révélera pas ici. Elle aussi se met à faire des alliances un peu contre nature, disons simplement que tous les grands méchants de la scène internationale sont au rendez-vous, la Chine, la Russie n'en jetaient plus. Le créateur raconte dans une interview à Télérama, je cite, « Un ami politicien m'a parlé d'une loi méconnue qui stipule qu'en cas de découverte de nouvelles ressources naturelles au Groenland, le gouvernement danois pourrait en tirer profit. Ça m'offrait un matériau en or pour un thriller politique. Je me suis donc mis au travail comme si je tenais une nouvelle série, mais plus j'avançais, plus cela ressemblait à du Borgen. C'est à ce moment-là que Netflix m'a proposé de relancer la série. » Alors toi, ton avis, justement, sur cette quatrième saison ?
C'est intéressant cette citation, parce qu'on voit bien comment tout a été tricoté, et un peu mal tricoté, peut-être.
C'est vrai.
Déjà, je pense qu'on est assez joyeuses, toutes les deux, de les retrouver. Après, je trouve assez malin de consacrer cette saison sous le signe du wokisme au Groenland, donc territoire autonome, ancienne colonie danoise, et à la patate chaude qui est la souveraineté des peuples et des territoires autochtones, avec toutes les questions que pose la décolonisation. Donc évidemment, tout ça est un peu méta, puisque comme son personnage, la série doit lutter pour se réinventer, pour rester pertinente, donc en mobilisant des enjeux actuels que sont le réchauffement climatique et les hydrocarbures, mais aussi les réseaux sociaux avec la question du cyberharcèlement, la sororité qui existe ou non entre les femmes politiques. D'ailleurs, Adam Price dit que cette question de la vie personnelle des femmes politiques maintenant est un peu démodée, peut-être au Danemark, je ne sais pas. Il y a aussi la ménopause, puisque Birgit Nyborg a des bouffées de chaleur, et c'est chouette de le voir à l'écran, même si c'est pas chouette pour son personnage. Quand même, depuis la dernière saison, la saison 3, il y a quand même eu la défaite d'Hillary Clinton aux États-Unis. Pour moi, ça jette une autre lumière aussi sur la place des femmes en politique, qui n'est toujours pas une évidence. Tu le disais, donc il y a une autre femme première ministre depuis 3 ans au Danemark, donc Mette Frederiksen. Et donc, fatalement, la série, en tout cas au Danemark, dialogue avec cette actualité-là et répond à tout ce que ça peut poser comme question sur cette nouvelle génération de femmes plus jeunes au pouvoir. En tout cas, selon mes sources au Danemark, c'est un gros hit là-bas, les gens sont à fond. Voilà, mais à part ça, est-ce qu'on se ferait pas un peu chier dans cette saison ?
Ah, j'irais pas jusque-là. Je dirais qu'il y a quelques longueurs peut-être dans la deuxième partie de la saison, mais je dirais pas qu'on se fait chier. Bon, moi aussi, j'étais ravi de retrouver ces personnages. J'ai souvent un rapport très affectif avec les personnages de séries que j'adore. Quand je les quitte, j'ai vraiment l'impression de perdre des amis, alors quand je les retrouve, je vous raconte pas. J'ai trouvé que c'était toujours une vraie bonne série politique, meilleure que la saison 3, que je trouvais bien en dessous des deux premières. Après, c'est vrai que c'est un risque de baser la saison sur un seul grand thème principal. Ça oblige à quelques retournements de situation un peu scabreux, mais dont les séries politiques sont assez coutumières. Mais là où je trouve que la série fonctionne vraiment bien, c'est dans son exploration de ce que fait le pouvoir aux gens qu'il exerce, comment ils les transforment, comment ils subissent aussi, et ce qu'ils sont prêts à faire pour le garder ou pas, ce pouvoir. Et ça marche aussi bien pour l'arc narratif de Birgit Nyborg que pour celui de Catherine Fonsmark, devenue directrice de l'information de la première chaîne publique. Seulement à jeu-là, les fans de Birgit Nyborg, dont je suis, passent un long et douloureux moment. Je passe le message, je suis dispo pour en parler dans une cellule de soutien si jamais. Une dernière chose, tu l'as dit, c'est une série très woke. J'étais pas aussi éduqué au féminisme que je le suis aujourd'hui quand j'ai vu les premières saisons il y a une dizaine d'années. Mais j'ai l'impression que cette fois, ils vont quelques crans plus loin encore. Les femmes sont omniprésente à l'écran, et ça fait du bien. Pas vraiment de sororité, mais je dirais pas non plus qu'on tombe dans le catfight. Leurs problématiques aussi, tu en as parlé, sont très présentes, les bouffées de chaleur, mais il y a aussi le cyberharcèlement, le procès en incompétence. On apprend même au détour d'une phrase, l'air de ne pas y toucher, que notre Birgit revient d'un cancer du sein, tout simplement. À ce moment-là, je me suis quand même un peu demandé si on chargeait pas un peu la barre, si on cherchait pas à la rendre warrior, un peu plus warrior qu'elle ne l'est.
Oui, et dans le genre bateau qui coule, c'est assez intéressant, effectivement, de voir aussi le trajet de de la jeune journaliste, puisque c'est deux trajectoires un peu parallèles, ouais. Hein, évidemment, qui a été promue directrice des programmes. C'est un bon exemple de ce qu'on appelle en sociologie la falaise de verre, c'est-à-dire le fait de promouvoir des femmes au moment où une situation est désespérée, ce qui fait qu'elles ont aussi plus de raisons d'échouer. Voilà, on vous en dit pas plus. Mais évidemment, ça pose l'éternelle question, faut-il se prononcer pour ou contre les retours, les reboots et autres comebacks ? D'ailleurs, on a vu ce que ça donnait récemment avec Sex and the City, par exemple. Ici, comment est-ce qu'on peut justifier de ressusciter une série qui semblait bel et bien terminée et enterrée ? Il faut rappeler le contexte aussi, puisque le groupe audiovisuel DR, donc Danmarks Radio, qui produit toutes les séries à succès qu'on a citées, a connu l'année dernière une énorme crise. Peut-être que ranimer Borgen, cornaqué par Netflix, c'est aussi un moyen de se remettre en selle. Je ne sais pas, c'est une hypothèse. En tout cas, que faire de notre héroïne et pour en dire quoi ? Eh ben, on en fait une anti-héroïne, hein, tu l'as dit. Donc, c'est quelqu'un qui va devoir faire des compromis impossibles, qui est sur la sellette, qui se prend des pots de banane à répétition. Donc là, on a
droit... s'auto-met des pots de banane aussi.
C'est ça. Hashtag the future is female. Là, on a droit donc au côté obscur de Birgit Nyborg, toujours à coup de citations de Machiavel. On n'en peut plus.
Ça, t'as pas aimé.
Non, ça, ouais. Non, ça ne passe pas. Mais bon, c'est quelqu'un qui nous avait quand même redonné un peu foi dans la politique. Et là, je trouve que c'est un peu artificiel. Et surtout, parfois, on a l'impression que ce sont aussi des gens puissants qui se plaignent d'avoir du pouvoir. Et du coup, je me dis, mais qu'est-ce qu'on nous raconte, en fait ? Donc ça, je peux pas cautionner. Et par ailleurs, il y a aussi un aspect qui est assez dissuasif, je trouve, pour les femmes à prendre le pouvoir. Donc là aussi, ça m'a laissé un peu perplexe. Voilà, par ailleurs, on peut... quand même citer l'absence de certains acteurs et actrices, notamment Pilou Asbeck, qui a été depuis promu par Game of Thrones et qui connaît une carrière hollywoodienne.
Donc. Qui était donc le spin doctor de Birgit Nyborg dans les premières années.
Et le BG de la série, on peut le dire. En tout cas, par ailleurs, je pense que le risque, tu le disais, de passer du Danemark au Groenland, c'est que cette série et cette saison, en tout cas, est un peu éparpillée. Il me semble qu'il y a un arc narratif qui n'est pas résolu. Je pense que quand on prétend s'intéresser à certaines personnes, notamment des personnes minorisées, la moindre des choses, c'est de résoudre l'arc narratif qui les concerne. Voilà, j'en dirai pas plus, mais voilà, vous le verrez en regardant la saison.
Bon, alors, j'entends ce que tu dis sur le côté artificiel, je l'ai ressenti aussi, mais en fait, tous les personnages ressentent le côté artificiel des retournements de situation de Birgit Nyborg, et je trouve que ça ancre quand même un peu plus les choses. Sinon, sur la question des reboots, je suis pas fondamentalement pour de base, je suis pour les séries qui ne font pas la saison de trop, où on ne tire pas à la ligne. Moi, je trouve qu'il vaut mieux une belle série de deux saisons qu'une mauvaise de quatre. Malgré tout, ma peur était mêlée d'envie en apprenant le retour de Borgen. Je vous ai dit toute l'affection que j'avais pour ces personnages. Et en même temps, bah, la saison 3 n'était pas top. Et c'était déjà presque un mini-reboot, puisqu'on l'a retrouvé quelques années après la perte du pouvoir.
Oui, en tout cas, l'actrice a dit qu'il n'y aurait pas d'autre saison, des propos qui ont été depuis tempérés par le scénariste. Voilà.
Bon, je pense que c'est bien de s'arrêter aussi. Ou alors une sorte de crossover avec Parlement, peut-être.
Oui, ce serait drôle. Donc c'est tout pour cette semaine. Vous pouvez retrouver toutes les références dans le descriptif de l'épisode. Vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux si vous avez vu Borgen, c'est @quadmeuf. Et vous pouvez nous laisser des étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide à être référencés. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode long. Merci, salut Rachel.
Salut Clémentine.
Quoi de Meuf est une émission de Nouvelles Écoutes, rédaction en chef Clémentine Gallo,
journaliste chroniqueuse Rachel Garaval-Garcel,
mixage et montage Laurie Galigani, prise de son Thibaut Delage à l'arrière-boutique, générique réalisé par Aurore Mailleux, réalisation et coordination Cassandra de Carvalho et Mathilde Jonin.